Vous écoutez, on lit pour vous.
Du mouvement citoyen à l'éveil de la curiosité des lecteurs. Un texte de Joséanne Paradis paru le 10 juin 2025 dans les libraires. En 2014, alors que la situation n'était pas des plus roses pour le milieu littéraire québécois, il s'est passé quelque chose de grand. Un auteur, Patrice Cazot, et une autrice, Amélie Dubé, se sont dit qu'il fallait poser un geste concret pour que la littérature de chez nous s'habille de paillettes et vole, du moins pour une journée, la vedette. Leur initiative, que l'on connaît maintenant tous à l'aube de la 12e édition de la journée, le 12 août, J'achète un livre québécois, a complètement déplacé l'horizon du milieu littéraire québécois. Ce grand mouvement de sensibilisation a pris son envol avec l'idée toute simple que, si plus de gens achetaient des livres québécois, les auteurs d'ici, comme leurs éditeurs et les librairies d'ailleurs, ne s'en porteraient que mieux. D'ailleurs, c'est exactement ce que Patrice Cazot expliquait, avec la verve qui prouve que les auteurs d'ici savent effectivement capter l'attention du public, dans le texte qui accompagnait l'événement créé sur les réseaux sociaux. Il avait déjà foi en ce que l'esprit de communauté pouvait créer. Il y a des plumes extraordinaires à découvrir au Québec, des univers à explorer, des mots pour nous faire rêver, pour nous secouer, nous surprendre, nous tirer des larmes ou nous faire éclater de rire. Des mots soigneusement choisis pour nous faire vivre quelque chose de précieux, de différent. Si un gars peut amasser 50 000 $ sur Kickstarter pour préparer un grand bol de salade de patates, je dis qu'on peut transformer le marché du livre, ne serait-ce qu'une journée, grâce à nous tous. Oh, et si ça fonctionne bien, l'année prochaine, je créerai l'événement le 12 août, J'achète 2 livres québécois. La prémisse était excellente et ceux qui se sont ralliés au mouvement furent nombreux dès la première édition. L'esprit de communauté, car c'est bien de ça qu'il s'agit, a enflammé les lecteurs, les médias ont parlé, dès 2014, de ce mouvement qui, déjà, entonnait un chant de fond d'une grande force, un chant festif et rassembleur qui invitait tout un chacun à grossir les rangs et à prendre la vague. Les statistiques enregistrées par Gaspard démontrent que dès 2014, une augmentation de 214% des ventes de livres québécois a été recensée dans les librairies indépendantes du Québec. L'année suivante, ce chiffre grimpait déjà à 483%. Oui, le 12 août 2014, les gens qui auraient pu en douter encore ont vu que le livre québécois était d'une richesse infinie. Acheter un livre n'était alors pas qu'un appui à un mouvement, c'était un cadeau qu'on s'offrait à soi. Aller en librairie et s'ouvrir à ce qu'un auteur d'ici nous fasse de l'œil, avant de se gâter en le ramenant dans son chez-soi. Une confiance déposée au cru des mains des libraires. Le 12 août, c'est la fête en librairie. Certaines sortent les ballons, d'autres le thé glacé. L'important est de faire en sorte que la rencontre entre les clients et les ouvrages provoque le coup de foudre. À la librairie Poirier à Trois-Rivières, Laurence Grenier est époustouflée par la fidélité des lecteurs. Il n'y a plus de doute, le 12 août est maintenant une fête inscrite au calendrier de nombreux Québécois. Nous sommes toujours agréablement surpris par l'engouement de cette journée, par le plaisir manifeste que les gens prennent à venir encourager la littérature d'ici. On a vu beaucoup de nouveaux visages et on adore voir débarquer des familles avec de jeunes enfants, signe que l'activité s'inscrit dans une tradition. Ce mouvement citoyen est la preuve qu'ensemble, les gens peuvent faire la différence et on les remercie d'encourager les librairies indépendantes. Jean-François Santerre, de la librairie Sainte-Thérèse à Sainte-Thérèse, mentionnait après l'édition de 2023 que ce fut, comme tous les ans, une belle journée, comme Noël, journée la plus achalandée en librairie, mais sans le stress et l'anxiété. Aujourd'hui, tout le monde arrive heureux et de bonne humeur. Les gens veulent juste trouver un bon livre québécois. L'autrice Julie Gravel-Richard commentait ainsi d'ailleurs un article de blog après la première édition. Comme lectrice et cliente, j'ai beaucoup aimé cette journée et je me suis amusé à écouter les conseils glanés ici et là, des libraires pour des clients et beaucoup de jeunes. Les libraires en avaient plein les bras, mais tout sourire se creusait la tête en suggestions de toutes sortes. La libraire Marie-Hélène Vaugeois de la librairie Vaugeois à Québec défend justement bien le rôle du libraire conseil lors de cette journée. Elle signait un texte au lendemain de la première édition qui en exprimait les contours. Il faut aussi que vous sachiez qu'on ne veut pas vous vendre notre dernière grande lecture, mais bien votre prochain coup de cœur, le livre qui vous donnera envie d'en relire un autre le plus vite possible, le livre qui vous rendra accro à la lecture. Ce qui ne change pas, chaque 12 août, malgré l'effervescence en librairie, c'est l'attention portée au lecteur. Le client y est roi et le lien humain reste au cœur de l'expérience. On mise sur l'écoute, sur la curiosité partagée, sur le plaisir de conseiller. Ce jour-là, les libraires le remarquent. Les lecteurs veulent être surpris. Ils viennent chercher des découvertes, souhaitent recevoir des conseils. Si les statistiques démontrent que ce sont souvent les nouveautés d'auteurs bien établis qui trônent en haut lieu des palmarès de vente depuis 12 ans, les libraires constatent aussi un bel élan d'ouverture. Beaucoup de clients se laissent guider vers des essais, du théâtre, de la poésie ou des romans passés sous le radar. Des livres qui ne font pas les manchettes, mais qui marquent, touchent, éclairent. Des œuvres parfois discrètes, mais puissantes, qui dévoilent la richesse de notre littérature hors des projecteurs. Ces titres, on ne les retrouve pas toujours au sommet des palmarès, mais on les voit circuler, glisser de la main du libraire vers celle du futur lecteur, dans un bel élan de confiance. Et ceux qui leur ont donné une chance reviennent et en redemandent. Un changement dans le milieu culturel. Depuis 2014, les habitudes d'achat des Québécois ont changé. La place faite aux livres québécois en librairie s'est élargie. Les éditeurs ont devancé la rentrée littéraire en faisant paraître plusieurs nouveautés dès août, et les lecteurs, à l'année, tendent davantage l'oreille à ce qui se fait chez nous. Michel Lacroix, sociologue de la littérature, cité en entrevue dans Le Devoir en août 2024, soulignait que le 12 août est sans doute un des rares dossiers de défense de la littérature et culture québécoise qui témoigne d'un mouvement populaire et n'ait pas été politisé ou instrumentalisé au fil du temps. D'ailleurs, les instigateurs invitent ceux qui ne peuvent faire un achat à plutôt faire un emprunt en bibliothèque ou même à seulement partager leurs impressions sur les livres québécois. L'idée est de faire vivre l'amour de notre littérature de la façon la plus inclusive possible. Le succès du 12 août est envié. C'est pourquoi on retrouve maintenant d'autres initiatives qui, bien qu'elles n'aient pas encore suscité un engouement aussi monstre que l'événement estival pour le livre québécois, se démarquent d'année en année. On parle notamment de la journée, le 25 septembre, J'achète un livre franco-ontarien. Le milieu culturel s'est également mobilisé en mettant sur pied en 2025 l'initiative « Le 12 février, j'achète un billet pour une sortie culturelle québécoise ». Pour sa première édition, le succès s'est fait sentir. Par exemple, pour le théâtre Labordé à Québec, les ventes ont connu une augmentation de 990% par rapport au 12 février de l'année précédente. Oui, le 12 août change le visage de la culture, bien au-delà du seul domaine littéraire, et participe à un grand mouvement de fierté envers nos créateurs d'ici. C'était « Du mouvement citoyen à l'éveil de la curiosité des lecteurs », un texte de Joséanne Paradis, paru le 10 juin 2025 dans les libraires.
Little Bird. Mettre en lumière les contes autochtones. Un texte d'Hugo Beauchamp, paru le 7 mai 2024 dans La Liberté, au Manitoba. La mini-série Little Bird, distribuée par Crave et APTN, a reçu 19 nominations à l'occasion de la 12e cérémonie des prix Écran canadiens. Une reconnaissance qui traduit peut-être un changement de regard sur les histoires autochtones. Produite par les films Résolution et parue en mai 2023, la mini-série de 6 épisodes Little Bird s'est offerte plusieurs chances de se voir récompensée lors de la 12e cérémonie des prix Écran canadiens. En effet, avec 19 nominations, il ne serait pas surprenant de voir la série repartir avec une petite statuette dorée le soir du 31 mai 2024. Entre autres, la mini-série a été nominée dans les catégories « Meilleure série dramatique »,« Meilleure réalisation », »,« Meilleure direction photographique » ou encore « Meilleur costume ». En tout cas, du côté du cofondateur de la boîte Les Films Résolution, Ernest Webb, qui est aussi l'un des producteurs de la série, on ne cache pas sa fierté. Lorsque l'on a entendu la nouvelle, j'étais sous le choc. Je ne m'attendais pas à 19 nominations. C'est un témoignage de tout le travail accompli. Les gens qui ont pris part au projet ont donné le meilleur d'eux-mêmes dans cette série. Pour ce producteur Cree de la baie James, cette mise à l'honneur de Little Bird ne vient pas saluer seulement une œuvre cinématographique. C'est l'aboutissement de plusieurs décennies de travail. Ma femme, Catherine Bainbridge, et moi-même, nous avons créé les films Résolution en l'an 2000 et j'ai le sentiment que nous sommes arrivés à une nouvelle ère pour la narration autochtone. C'est une grande responsabilité à assumer donc. Nous sommes très heureux de faire partie de cela. Et justement, Little Bird est un récit autochtone. Un sujet important. Enlevé à son foyer, dans la réserve de Long Pine, en Saskatchewan, Bézig Little Bird est alors adoptée par une famille juive de Montréal. Elle devient alors Esther Rosenblum. La série invite à suivre cette jeune femme autochtone dans la quête de son passé et la recherche de sa famille d'origine. Une histoire qui n'est pas sans rappeler celle de Catherine Strongwin, une survivante de la rafle des années 1960 qui témoignait dans les pages de La Liberté le 26 juillet 2023. À juste titre, c'est bel et bien la rafle qui sert de toile de fond à l'histoire de Little Bird. Pour Ernest Webb, cela explique en partie l'accueil positif que la série a reçu. La rafle des années 1960 est quelque chose qui n'a pas encore vraiment été raconté. Les gens savent beaucoup des pensionnats autochtones, de la colonisation, mais la rafle n'a jamais vraiment été mise sur le devant de la scène. Je pense que de raconter cette histoire a touché beaucoup de gens, en particulier ceux qui ont vécu la rafle. Nous avons reçu tant de messages positifs de la part de survivants, certains nous ont d'ailleurs aidés à raconter cette histoire. Le producteur ajoute d'ailleurs, sur le ton de l'anecdote, « Nous avons même fait la connaissance d'une dame qui a elle aussi été adoptée par une famille juive montréalaise. Ça a été un vrai travail de collaboration. » Du courage. Little Bird est une série dramatique qui traite d'un sujet qui relève du traumatisme pour près de 20 000 enfants des Premières Nations, des Métis et des Inuits, aujourd'hui adultes. Et il s'agit là d'une estimation. Dans son livre « Care and Adoption in Canada » 1980, le travailleur social et auteur H. Philip F. Wirt estime qu'environ 20 000 enfants des Premières Nations, des Métis et des Inuits, ont été enlevés de force à leur famille pendant la rafle des années 1960. Il n'existe toujours pas de données officielles en ce qui concerne cet épisode de l'histoire. Cette dimension, il faut la prendre en compte dans le processus de création. Il y a bien sûr une sorte de protocole qu'il faut suivre lorsque l'on raconte ce genre d'histoire. L'une des qualités qu'il faut en premier lieu, c'est du courage. Il ne faut pas craindre de s'attaquer à ces histoires-là, et il faut les approcher avec beaucoup de respect. Pour l'histoire, pour les personnes qui sont concernées, et pour la façon dont on veut la raconter. Une fois que l'on a fait preuve de respect, l'histoire prend vie. Elle prend un esprit, et il faut honorer cet esprit. Il existe un tas d'histoires qui méritent d'être racontées, et je pense qu'il était temps que celles-ci soient entendues. Le temps du changement. Le cinéma, si l'on se fie à la définition du romaniste et philologue français Joseph Bédier, c'est un œil ouvert sur le monde. En cela, il permet de faire ressortir ses réussites, ses travers, mais aussi ses changements. À la question de savoir s'il pensait que le cinéma pouvait jouer un rôle important sur le chemin vers la vérité et la réconciliation, Ernest Webb confie qu'il a le sentiment que des bouleversements s'opèrent au sein de l'industrie du septième art, que c'est à notre tour, cinéastes et conteurs autochtones, de briller. Le producteur prend à titre d'exemple l'actrice Lily Gladstone, actrice autochtone qui a été nominée aux Oscars pour sa performance dans le film de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon. Il y a eu un vrai changement lorsqu'il s'agit d'acceptation, pas seulement chez le public, argue-t-il, mais aussi chez les diffuseurs. Auparavant, nous avions beaucoup de mal à proposer des histoires autochtones aux diffuseurs. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'ouverture et nous sommes heureux de faire partie de ce mouvement. À propos de l'intérêt grandissant du public pour les histoires autochtones, Ernest Webb pense qu'il est dû en partie au fait que les histoires viennent dorénavant de nous, de nos cœurs et nos esprits. Toucher un large public. La force du septième art, c'est aussi qu'il touche un large public. Alors, si le milieu laisse plus de place aux Autochtones pour narrer leurs histoires par extension, il leur permet potentiellement d'éduquer et de toucher un plus grand nombre de personnes. Le conte est quelque chose de sacré, quelque chose de lourd de responsabilité, que l'on ne peut pas prendre à la légère. Pour moi, mon premier public, ce sont les peuples autochtones, ma famille là-bas à la baie James, c'est pour eux que je raconte ces histoires. Mais si le conte se diffuse dans le reste du monde, cela le rend d'autant plus précieux. C'était Little Bird, mettre en lumière les contes autochtones, un texte d'Hugo Beauchamp, paru le 7 mai 2024 dans La Liberté, au Manitoba.
Petite bête de papier. Un texte d'Alexandra Guimond, paru le 10 juin 2025 dans Les Libraires. Ah, les insectes! Bien qu'ils soient si fascinants pour certains, ils en horripilent plusieurs autres avec leur dégaine aliénesque. Bien qu'elles soient partout autour de nous, cette classe d'animaux invertébrés demeure souvent méconnue du genre humain. Pourtant, ceux-ci représentent la moitié du vivant et leur rôle est essentiel pour l'équilibre de la biodiversité. Que ce soit par la pollinisation des fleurs ou par la transformation des déchets en compost, ces organismes grouillent et s'activent pour le bien commun. La littérature offre un terreau parfait aux créatures ayant fait leur apparition il y a près de 450 millions d'années. Les classiques du genre demeurent pertinents de nos jours. la fameuse trilogie sur les insectes sociaux du poète belge Maeterlinck brille encore par son lyrisme absolu. La vie des abeilles, la vie des fourmis, la vie des termites, Bartilla 2019, et les écrits attendrissants du naturaliste français Jean-Henri Fabre représentent toujours la quintessence du charme écologique. Souvenirs entomologiques, Robert Laffont, bouquin, 1995. Mais défrichons un peu le sujet et découvrons d'autres passionnés qui se sont penchés sur ce fourmillant univers. Par chance que les enfants sont là pour s'intéresser aux petites bêtes. Est-ce dû à leur taille qui les rapproche du sol ou à leur curiosité débordante qui les pousse à regarder sous leurs pieds? Leur coffre à jouets regorge de filets à papillons, de loupes grossissantes et de cages à bibites dans le but de les scruter. Et tout observateur doit nécessairement se munir d'un guide d'identification pour pouvoir s'y retrouver. Les éditions Les Presses de l'Université de Montréal ont fait paraître en 2020 un important guide tout public intitulé « Les insectes du Québec et autres arthropodes terrestres ». Sous la gouverne de l'entomologiste Étienne Normandin, le livre regroupe par ordre les différents spécimens qui peuplent notre province. Les photographies en couleur et les gros plans successifs permettent une juste reconnaissance visuelle pour les profanes que nous sommes. Malgré un respectable volume de 600 pages, ce recueil ne regroupe que 10% de la grande diversité de ceux qui pullulent au Québec. Vertigineux, n'est-ce pas? Les documentaires sont des livres fascinants pour aborder différentes thématiques avec les tout-petits. Tout ce que vous pensez savoir sur les petites bêtes est faux. Du zoologiste Nick Crompton, Gallimard Jeunesse 2022, est un formidable catalogue qui déconstruit les idées reçues. Saviez-vous que ce ne sont pas toutes les abeilles qui meurent après avoir piqué? Que les bousiers s'orientent avec la voie lactée? Que nous n'avalons pas d'araignées la nuit? Et que ce ne sont pas tous les insectes qui pondent des œufs? Les dessins dynamiques et colorés de Gavin Scott sont une réelle plus-value dans la démonstration des fake news du monde naturel. Cette lecture vous fera briller en société. La fiction est aussi un excellent moteur pour alimenter notre curiosité. L'imagination particulièrement décalée de l'auteur jeunesse Pascal Parizeau est riche en contenu informatif. Dans Vibidia, la coccinelle super inquiète, École des loisirs 2024, nous apprenons quelques faits intéressants sur les coccinellidés, tout en nous laissant porter par une loufoque histoire. À force de commettre des excès de vitesse, Vibidia, la petite coccinelle orange, perd ses points de permis de conduire, qui se trouvent sur sa carapace. S'ensuit une quête pour obtenir de nouveaux points et pour retrouver la faculté de voler en toute liberté. Les arts visuels ont toujours eu une place de choix dans le vaste monde de la science. Les illustrateurs et illustratrices scientifiques ont su représenter les différents spécimens pour mieux les répertorier et les analyser. Cornelia Hess-Honegger occupait ce poste à l'Institut de zoologie de l'Université de Zurich, et l'un des projets était de peindre les mouches du vinaigre irradié par des généticiens. Les mutations dévoilant les perturbations du corps ont amené Hess Honegger à s'intéresser plus largement aux effets du nucléaire sur l'environnement. Dans son essai « Créature de Tchernobyl » Wild Project 2022, l'anthropologue Hugh Raffles explique l'art concret, très proche de l'activisme antinucléaire, de la Suissesse. Le travail de précision réalisé par Hess Honegger avec l'aide d'un microscope permet de focaliser sur la minuscule réalité quasi secrète des insectes. Avec ses grandes toiles détaillées, la peintre montre l'altération corporelle causée par les radiations à la suite de la tragédie de Tchernobyl en 1986. Son œuvre est un véritable cri d'alarme et met en lumière les dangers reliés aux catastrophes nucléaires. Autour du récit de s'emparer du sujet, entre le journal sentimental et le manuel technique d'apiculture, la Dame aux abeilles, Phébus 2024, est avant tout le témoignage d'une grande passion. Sue Hubel nous introduit à son rucher dans les monts Ozarks, nous explique les rudiments de son minutieux travail et partage avec nous des tranches de vie éclairantes. Celle qui a su gérer des milliers d'abeilles parmi les éleveurs de gros bétail passait clairement pour une excentrique. L'ouvrage convient à tous les apiculteurs et apicultrices en puissance. L'écrivaine américaine décortique avec une patience exemplaire chaque étape de la besogne au fil des quatre saisons. À mes yeux, elle est la définition même d'une poétesse. Elle considère avec sollicitude son environnement et est dotée d'un merveilleux regard sur le vivant. Espérons que cet inventaire vous donnera envie de ranger votre tondeuse lors de la saison chaude pour laisser la flore mellifère éclore dans toute sa splendeur. C'était « Petite bête de papier », un texte d'Alexandra Guimond paru le 10 juin 2025 dans Les Libraires.